Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Il existe de très nombreuses versions du conte de Cendrillon. La première, celle de Charles Perrault, personnage important de la cour de Louis XIV et qui écrivait pour les gentilshommes, met en scène la fameuse citrouille carrosse et les pantoufles de verre qui seront prises dans le dessin animé de Walt Disney. Les frères Grimm reprirent ce conte, mais en restant au plus près de ses racines populaires. Le conte est âpre, tranchant, mais d'une force symbolique nettement supérieure à celui de Charles Perrault. C'est donc la version des frères Grimm de Cendrillon que nous avons choisi, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, de vous présenter. Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand elle sentit sa fin approcher, elle appela sa fille unique à son chevet et lui dit « Cher enfant, reste pieuse et bonne, alors le bon Dieu te viendra toujours en aide, et moi, du haut du ciel, je te regarderai et je veillerai sur toi. » Là-dessus, elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère et pleura et resta pieuse et bonne. Quand vint l'hiver, la neige mit un tapis blanc sur la tombe, et quand le soleil du printemps l'eut retiré, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle deux filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors les tourments commencèrent pour la pauvre belle-fille. « Cette petite oie va-t-elle rester avec nous dans la salle ? » dirent-elles. « Qui veut manger du pain doit le gagner. Dehors, le souillon !» Elles lui enlevèrent ses belles robes, la vêtirent d'un vieux sarrau gris et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu la fière princesse comme elle est bien nippée » s'écrièrent-elles en riant et elles la conduisirent à la cuisine. Là, il lui fallut trimer, dur, du matin au soir, se lever bien avant le jour, porter l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. Par-dessus le marché, les sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient poids et lentilles de sorte qu'il lui fallait rester à la cuisine et recommencer à l'étrier. Le soir, quand elle était exténuée de travail, elle ne se reposait pas dans un lit, elle devait se coucher près du foyer, dans les cendres. Et comme cela lui donnait toujours un air poussiéreux et malpropre, elle l'appelait Cendrillon. Il advint un jour que le père voulut se rendre à la foire. Alors il demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur apporter. « De beaux habits, » dit l'une, « des perles et des pierres précieuses, » dit la seconde. « Mais toi, Cendrillon, que désires-tu » dit-il. « Père, le premier rameau qui, sur le chemin du retour, heurtera votre chapeau, cueillez-le pour moi. » Il acheta pour les deux sœurs de belles robes, des perles et des pierres précieuses, et sur le chemin du retour, comme il passait à cheval à travers un buisson verdoyant, une branche de noisetier l'effleura et lui enleva son chapeau. Alors il cassa la branche et l'emporta. Rentré chez lui, il donna à ses belles filles ce qu'elles avaient souhaité et à Cendrillon la branche de noisetier. Cendrillon le remercia, alla sur la tombe de sa mère et y planta la branche et pleura si fort que ses larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Or, le rameau grandit et devint un bel arbre. Et trois fois par jour, Cendrillon allait pleurer et prier sous son arbre. Et chaque fois, un petit oiseau blanc y venait. Et quand elle exprimait un souhait, l'oiseau faisait tomber entre ses mains ce qu'elle avait souhaité. Docteur Dominique Desmichel, Cendrillon, pour vous, c'est... Quelles sont les premières images? Walt Disney?
Comme beaucoup de gens. Je crois. Je crois que c'est quand même Walt Disney. J'ai regardé ça avec mes enfants il y a très longtemps. Avec mes petits-enfants, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit bout de temps que je ne l'ai pas regardé. Moi, j'ai une seule image qui me reste principale, c'est les petits oiseaux qui fabriquent la robe de Blanche-Neige, de Cendrillon avant qu'elle parte au bal. Voilà, surtout cette image-là qui m'avait un peu fasciné. Ouais, ouais. Je ne sais pas trop pourquoi.
Alors c'est sûr, avec la version des frères Grimm, on est dans une version un petit peu différente, mais au niveau symbolique, on est sur les mêmes bases que le Cendrillon de Walt Disney, grosso modo. Et ça commence, comme beaucoup de contes, par « Il était une fois, un père, sa femme », une histoire de famille, finalement.
Voilà, souvent, les contes, ça commence bien, comme ça, il se passe quelque chose, et puis comme ça raconte une histoire, évidemment, il va y avoir un drame. Alors, ce qu'on sait au début, c'est que cet homme, il est riche. Voilà, c'est un homme riche. C'est toujours important de s'attarder sur les mots et les adjectifs. Et on a envie de se dire, il est riche de quoi ? Et on a le sentiment, en tout cas, que peut-être ce sont essentiellement des richesses intérieures. On ne sait pas trop, en tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est sûrement pas riche de la santé de sa femme, puisque, en fait, après les petites présentations courtes, on apprend que sa femme va être malade. J'insiste d'ailleurs d'emblée pour dire qu'on peut lire ce conte comme quelque chose qui se joue à l'intérieur d'une seule personne, c'est-à-dire où ça raconterait l'histoire de cet homme et du lien avec sa partie féminine. On reprendra ça peut-être un petit peu à la fin, mais il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture du conte, mais disons qu'on va rester pour l'instant dans une lecture où il y a un papa, une maman, un homme, une femme, un couple, et que la femme va tomber malade et mourir. Je rappelle d'ailleurs à ce propos-là que la lecture intermédiaire entre une lecture tout à fait classique d'une femme qui meurt dans la réalité et l'autre que je viens de citer, à savoir il s'agit de la partie féminine d'un homme, il y en a une autre intermédiaire qui est que le conte veut apprendre à l'enfant qu'il a, tant qu'il était petit, été en contact avec une mère idéalisée et toujours bonne, et qui va rencontrer en grandissant, parce que lui, il va élargir son champ de conscience et sa capacité à comprendre ses parents et les adultes, il va découvrir l'autre partie de la mère qu'on appelle la marâtre.
Alors, comme beaucoup de contes également que nous avons déjà vus, et beaucoup de contes connus des frères Grimm ou de Charles Perrault, nous sommes face à un père qui est un père absent, un père qui n'est pas vraiment un père, de toute façon.
C'est très juste. Quand on lit le conte, et vos auditeurs l'ont entendu, écouté, j'imagine, attentivement, le père est signalé au tout début, et puis ensuite, il y a toute une trame narrative qui se déploie, et on ne parle plus du père.
Il revient de temps en temps, mais c'est... Voilà. Dans la version de Charles Perrault, il revient à la fin, puis point barre, quoi.
Voilà. C'est ça. Donc, c'est bien important, hein. Je vous rappelle qu'un des éléments fondamentaux de la finalité, de la pédagogie du conte, c'est de parler à l'enfant et de lui mettre en scène quelque chose de la complexité des relations entre les parents et lui-même en tant qu'enfant.
Alors à partir de cette trame archi connue de démarrage, survient l'événement, donc la mort de la mère de cet enfant qui n'a pas encore de nom d'ailleurs, oui. On y reviendra, voilà. Et en mourant, la mère fait une drôle de recommandation à sa fille, enfin recommandation tragique, enfin dramatique en tout cas.
Voilà, tout à fait. Donc on a vu qu'il y avait le père absent, cette mère malade, et on apprend aussi qu'ils ont une fille. Hein. Cette fille, c'est bien important aussi de noter que pendant tout le début, comme vous l'avez dit, tout le début du conte, elle n'a pas d'identité. Voilà, elle est juste la fille, c'est-à-dire elle est réduite à sa fonction, on pourrait dire. Elle est dans une position de fille et elle n'a pas de prénom.
Et ça, je sais combien c'est important à vos yeux, le prénom que donnent les enfants, les parents à leurs enfants.
Voilà, tout à fait. Non pas parce que le prénom va déterminer quelque chose de l'avenir de l'enfant, enfin moi personnellement j'y crois pas du tout, mais parce que l'aura qui entoure un prénom dit quelque chose du désir conscient et du désir surtout inconscient des parents, c'est-à-dire de leur désir tout simple, dans le sens normal du terme. Ils ont un désir, ils ont un projet pour l'enfant, et ce faisant, ils lui donnent particulièrement un prénom. Donc on voit ici que cette petite fille, elle a un père qui n'est pas trop là, elle a une mère qui va mourir et qui est malade, et elle n'a pas de prénom. Bah, autant dire que c'est quand même en gros mal parti pour elle dans la vie. Hein. Voilà. Donc la femme va mourir et comme vous le dites, elle appelle sa fille et elle lui parle. Et elle dit cette phrase tout à fait extraordinaire. « Ma chère enfant, reste pieuse et bonne, et le bon Dieu t'assistera toujours. Quant à moi, je te regarderai depuis le ciel et je serai à tes côtés. » Et je crois qu'il faut nous arrêter un petit peu sur cette phrase, puisqu'elle est d'abord la première parole, une parole extrêmement forte. Je vous rappelle qu'on est dans une situation où la mère va mourir, c'est-à-dire dans quelque chose d'extrêmement dramatique. Et au fond, il me semble que là, la mère, donc ici une bonne mère, elle se donne à sa fille. Elle lui fait une injonction, reste pieuse et bonne, et elle lui fait une promesse. Si tu es bonne, si tu es pieuse, l'avenir te sera juste. Et elle place surtout sa fille sous une double protection d'une figure paternelle et maternelle. Et je crois que c'est très important que, dès le début, on entende, on écoute ce conte comme, je dirais, l'émergence d'images archétypiques d'un couple. C'est-à-dire, pour moi, ici, il s'agit, pour une enfant, de savoir comment il est possible de faire du couple quand le couple n'est pas là. Et donc, la mère lui dit, la mère qui va mourir, lui donne deux figures, celle d'une figure donc paternelle de premier plan, puisqu'il s'agit de Dieu, donc une figure paternelle spirituelle. Je vous rappelle qu'à l'époque, Dieu était un homme. Maintenant, il est souvent figuré sous une forme d'homme, mais il est souvent perçu comme une bonne mère généreuse qui pardonne, etc. Donc vous voyez, l'évolution de la représentation psychique du divin a varié suivant les siècles. Donc, il y a cette figure paternelle, et puis il y a une deuxième figure qui est la figure maternelle, qui là est inscrite dans la réalité comme une bonne mère, c'est-à-dire c'est la mère qui s'occupe de sa fille juste avant de mourir. Mais c'est quand même une mère qui, elle aussi, va être absente puisqu'elle fait à sa fille un coup quand même pas très très sympa, qui est même assez violent, de se barrer avant que la fille soit éduquée. En gros, quand on est parent, ça se fait pas, faut le dire. Et moi, par exemple, qui travaille avec des enfants qui ont perdu leurs parents, ou disparu, ou décédé, ou qui sont partis à l'autre bout du monde, on n'a pas de nouvelles, j'essaye d'apprendre presque aux parents à pouvoir faire le reproche extrêmement rude à leurs parents de s'être absentés, parfois ouais. Durablement ou définitivement, alors qu'ils étaient encore enfants. C'est un sale coup, quoi. Là, quand on est parent, on se doit d'être là jusqu'à ce que les enfants soient éduqués, exduquerés, c'est-à-dire qu'ils soient devenus autonomes.
La mère meurt et va s'engager entre la fille et puis son travail de deuil.
Ce qui est important, c'est que donc, la maman va mourir et cette petite fille, vous aviez raison de le signaler tout à l'heure, qui n'a pas encore de nom, elle est au fond invitée à se placer sous les auspices de ces deux figures. Et on parle à ce moment-là d'imago. L'imago, c'est le mot latin qui veut dire image, simplement. Mais on parle d'imago, ça veut dire à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons tous une imago paternelle, une imago maternelle, qu'on a construit pour celle du père à partir de notre papa historique, un petit peu à partir de notre maman aussi, mais aussi des tas de figures masculines qui ont compté. Ça peut être un prof d'histoire géo, ça peut être un prof de sport, ça peut être un prof de musique, enfin, toutes les figures paternelles qui vont compter. Et on a une imago maternelle à l'intérieur de nous-mêmes qu'on a fait dans l'expérience qu'on a eue avec notre maman historique, mais aussi d'autres figures qui ont compté dans notre existence. Et ces images intériorisées à partir de l'expérience, à partir de la relation avec des figures de père et de mère, construisent quelque chose qui va être très déterminant pour l'enfant. Donc, dans ce temps-là, on sent que Cendrillon est en train de construire ces deux figures, puisque le père n'est pas là et la mère est morte. Et je crois qu'elle va tenter de rester fidèle à sa mère, puisqu'elle se rend sur sa tombe dans un rituel dont on sait qu'il est quand même un des éléments fondamentaux de l'intériorisation et aussi du processus de deuil, vous le rappeliez. Lévi-Strauss y dit « le rite, c'est ce qui assure la continuité ». Donc vous savez bien, par exemple, dans le rite de l'anniversaire, au fond, chaque année, on rappelle à la fois la naissance, on dit qu'on prend un an de plus et on se retrouve ensemble. Et c'est une manière de dire qu'on est heureux de la présence de l'autre. Donc on peut penser qu'elle est dans cette fidélité à sa mère, puisqu'elle prie, le conte dit qu'elle restait pieuse, et elle se place donc sous la protection de ce couple parental symbolique, le divin avec tu prieras, et la figure maternelle dans cette présence-là.
Alors, nouvel événement, c'est, comme pareil dans énormément de contes, le père qui se remarie.
Voilà.
Alors, on dit que le temps passe, on dit que la neige tombe, le printemps arrive. Bon, il passe assez vite finalement. Hein. Le père, il passe pas 10 ans en deux deuils. Hein. L'année suivante, il se remarie. Voilà.
Et exactement. Hein. On peut d'ailleurs s'interroger là, dans la perspective où ce qui serait malade chez lui, ça serait sa part féminine, c'est-à-dire sa capacité à entrer en lien, sa capacité à avoir des sentiments et des émotions. On peut se dire que peut-être finalement, il n'était pas très très attaché érotiquement, je dirais, c'est-à-dire du côté de l'amour à sa femme perdue, qu'il aurait une féminité, une part féminine un peu handicapée, voilà, et donc, bah voilà, il oublie vite la première, il ne s'agit pas de lui faire reproche, il s'agit juste de le constater.
Et revoilà notre fameuse marâtre qui revient sur le devant du tableau.
Voilà, alors tout le monde qui a lu des contes de fées ou entendu quand il était petit, lu des contes de fées à ses enfants ou ses petits-enfants, connaît cette figure de la marâtre.
Bon, on rappelle que la belle-mère, c'est la figure de la mère.
Voilà.
Également aussi. Enfin, voilà. Qui joue les deux rôles, hein, on est
exactement,
d'accord.
Exactement, hein, oui. Exactement. Il faut bien le penser comme ça. Hein, en se disant que c'est l'autre figure, c'est la partie sombre, la partie négative.
Il n'y a rien contre les belles-mères. Hein.
Non, non. Voilà. Il s'agit en effet bien de dire ça. Et alors, elle a comme caractéristique cette belle-mère d'avoir deux filles, hein, voilà. Et on sent très vite que la mère et les deux filles se ressemblent. Elles sont blanches en surface, mais elles sont noires à l'intérieur. Et très vite, elles utilisent Cendrillon. Elles la mettent à la cuisine. Elles l'humilient. Et au fond, elles lui donnent à ce moment-là une place tout à fait particulière, qui est dans une sorte de déni de ce qu'elle est. Au fond. Ce qui est caractéristique, et vous l'aviez dit tout à l'heure, elle n'a pas de nom, et c'est simplement à ce moment-là que le comte la nomme, comme si avant elle était juste une fille orpheline, et de père et de mère, comme si elle n'avait pas d'identité, et puis là d'un seul coup, elle devient certes la fille d'un père manquant et d'une mère morte, mais elle était en quelque sorte réduite à sa position d'endeuillée, et elle va devenir celle qui est la servante, oui. Celle qui est un objet.
Oui, et c'est vrai que ces noms, il faudrait qu'on y revienne, parce que les autres personnages n'ont pas de nom également. Dans beaucoup de contes, c'est le roi, le prince, des personnages qui sont sans nom.
Oui, oui.
Sauf quelques personnages qui sont mis en lumière, comme ça, qui reçoivent donc Cendrillon, Podane, qui reçoivent des surnoms même d'ailleurs.
Voilà.
C'est quelque chose d'extrêmement important, ça.
Tout à fait. On peut rappeler, puisque vous aviez insisté sur l'idée du prénom, hein, que le prénom de Blanche-Neige est déterminé par la reine qui se pique, qui voit du sang qui coule sur la neige et qui dit « Je voudrais avoir une fille qui ait les lèvres rouges comme ce sang, les cheveux noirs comme l'ébène et la peau blanche comme cette neige. » Hein ? Donc vous voyez, le prénom ici dit le désir de la mère de Blanche-Neige qui va se révéler une marâtre, qu'elle soit morte ou pas, c'est toujours la même chose.
Alors Cendrillon, elle reçoit son nom parce qu'elle vit dans la cendre, ça aussi c'est très fort comme symbole.
Voilà, Cendrillon c'est la souillon, c'est celle qui s'occupe des déchets, c'est celle qui s'occupe des basses tâches à la cuisine. Je vous rappelle que dans Podane, que nous avons travaillé il y a quelque temps, Podane, après avoir fui son père plein de désirs incestueux ou incestueurs, se retrouve aussi en cuisine et elle va être celle qui s'occupe aussi de l'âtre, hein, parce que c'est une tâche difficile, il fallait toujours mettre du bois, il fallait absolument pas que le feu s'éteigne, ça servait à plein de choses, ça servait à se chauffer, ça servait à s'éclairer, ça servait à faire cuire les aliments. Donc elle est celle qui attise le feu dans les cuisines. Et les souillons, en effet, elles vident les cendres, ou elles vivent près des cendres. Hein. Vous savez, dans ces grandes cheminées d'autrefois, il y avait même dans les coins parfois un petit siège, un tout petit siège, et on venait s'asseoir hein, à gauche, à droite, parce qu'on était près du feu et on n'avait pas trop froid.
Les frères Grimm n'ont aucune pitié pour les demi-sœurs de Cendrillon. Pour le coup, elles sont très caractérisées du côté de l'obscurité, du mal, de la bêtise.
Oui, oui, tout à fait. Elles sont absolument excellentes dans le rôle des bad girls. Là, c'est tout à fait terrifiant. Et en langage psy, vous voyez, on dit que ces filles, elles sont entrées sur une problématique anale. Hein, tout petit mot là-dessus. L'oralité, c'est tout ce qu'on mange, c'est-à-dire on l'ingère, on garde ce qui est bon, on rejette ce qui n'est pas bon. C'est le premier mode de connaissance de l'enfant qui porte tout à sa bouche pour le connaître et puis fantasmatiquement pour l'ingérer, donc le faire sien. Le deuxième, c'est la maîtrise, c'est les sphincters, c'est j'apprends à être propre, j'apprends à faire, je fais l'expérience que je fais énormément plaisir à mon papa et à ma maman en faisant caca dans le pot, mais c'est aussi la puissance, la maîtrise, le contrôle de tout, hein, ici. Et là, on voit bien que ces deux sœurs sont dans cette problématique. Je vous rappelle aussi qu'on a vu aussi ce temps de régression et de retour en arrière dans Blanche-Neige. Hein,
oui,
quand la méchante reine revient, elle va présenter trois objets à Blanche-Neige. Le corset qui est fait pour mettre en scène sa poitrine, hein, donc dans quelque chose de très sexué. Ensuite, le peigne qui est dans quelque chose autour d'une séduction et d'un contrôle de la chevelure, et puis ensuite la pomme qui renvoie à l'oralité. Donc on est dans une sorte de régression inverse, hein, puisqu'on passe ces trois stades dans l'autre sens.
Le père va s'absenter pour, oui, pour un voyage, et puis il propose à ses filles de leur ramener quelque chose. Et oui, là, on voit bien que les demi-sœurs de Cendrillon sont dans quelque chose de totalement superficiel, dans l'apparence, et, oui, alors que Cendrillon va demander comme présent une branche d'olivier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, profondément ?
Vous rappeliez tout à l'heure que le père était absent. Et c'est vrai que quand on lit le conte, on s'aperçoit que c'est le seul moment où on en parle, quoi. Et on en parle en disant quoi ? Qu'il part à la foire. c'est quand même caractéristique. Mais en même temps, il est dans une forme de lien avec ses filles, pas avec sa femme, hein, mais avec ses filles, puisqu'il leur dit en gros, qu'est-ce que vous voulez que je vous rapporte de la foire ? Et en effet, les deux sœurs cadettes demandent des objets de coquetterie, voilà, c'est-à-dire elles ont envie de se transformer en bel objet désirable, hein, mais dans quelque chose de très factice, ou en tout cas de très matériel, tandis que Cendrillon va demander un petit bout de nature. Un petit bout de nature, c'est-à-dire, elle dit à son père, quand tu rencontreras un élément de nature, rapporte-le-moi. Et elle va demander un petit rameau. Un petit rameau, c'est comme un petit arbre en potentialité, hein.
Et c'est là que va s'engager, entre Cendrillon et sa mère, un nouveau rite, pour dire qu'elle va inventer un rite.
Voilà, je crois que c'est vraiment extrêmement, extrêmement touchant, ce passage-là, parce qu'on sent que Cendrillon a récupéré un objet qui a été apporté par le père. Donc on voit que le père ici, il n'est pas complètement absent, parce qu'il aurait pu complètement oublier sa fille aînée, non. Il lui rapporte quelque chose, il a écouté quand même son désir, hein, il faut lui donner ce crédit-là. Il lui a rapporté un petit rameau de noisetier, et à partir de là, Cendrillon va retisser un lien. Elle prend cet objet symbolique offert par le père, elle le plante sur la tombe, et elle retisse donc une sorte de lien intérieur entre son père via le rameau et sa mère via la tombe. Et son chagrin nourrit le lien, il porte fruit, le rameau devient arbre, et des branches vont accueillir l'oiseau blanc, celui de la pureté et celui d'une féminité adulte en construction chez Cendrillon.
Et nous avons un nouveau couple qui apparaît, le couple arbre-oiseau.
Voilà. Je crois que c'est tout à fait important d'avoir cette idée-là, parce qu'on va retrouver ce couple arbre-oiseau tout au long de l'histoire. Je crois que l'arbre, c'est une figure au fond maternelle, ici, même s'il provient du père, parce que l'arbre porte des fruits, il me semble, comme la femme porte le fruit que sont ses enfants. Et puis, l'oiseau pourrait représenter, il me semble, une figure plus paternelle. Mais c'est pas aussi tranché que ça, et ça va aussi dans les deux sens. En tout cas, Cendrillon puise à l'intérieur d'elle-même, dans son imaginaire personnel, quelque chose pour se construire. Elle a compris probablement qu'il ne fallait pas trop compter sur son père, en particulier pour la protéger ou l'aider à grandir. Elle va donc s'appuyer sur ce que nous, dans un langage de la psychanalyse jungienne, on appelle des images archétypiques, ça veut dire très très archaïques, du maternel. La grande mère la plus archaïque pour nous tous, c'est la mère nature. Hein, voilà, le maternel, c'est mater. Hein. Et ce sont ces grandes images archétypiques qui sont requises et qui se dévoilent quand la vie est trop défaillante. C'est-à-dire lorsque l'enfant n'a pas pu, grâce à un papa présent, à une maman présente, avec leurs qualités, leurs défauts, avec leurs ombres et leurs lumières, c'est normal, lorsqu'il n'a pas pu construire à l'intérieur de lui-même ces imagos parentales solides qui vont l'accompagner pendant toute sa vie, alors il va aller puiser dans ce que les Jungiens appellent l'inconscient collectif, qui va lui fournir des images archétypiques, et que ces images, à partir de ces images archétypiques, actualisées dans la rencontre avec différents personnages, ça va lui permettre de se construire une vraie imago paternelle et une vraie imago maternelle à l'intérieur de lui-même.
Règlement de compte, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite pour poursuivre l'exploration de ce conte de Cendrillon. Skeletons of leaves, making tiny piles of and sifting through the wheat. Wind blows the tiny green, wind blows the tiny green. Helicopter seeds, wind blows the tiny green, wind blows the tiny green. Helicopter seeds, oh, wandering in days unfolding with paths fashioned. What about the black-braided sisters of Marie? We sat apart.